thème de ce matin, c'est le découragement. Oh là là, vous allez ressortir d'ici. Voilà, on verra si la prédication est correcte. Mais en tout cas, le découragement, pourquoi le découragement? Parce que finalement, c'est quelque chose, sans m'avancer grandement, je peux dire que je pense que tout le monde a déjà été affecté par le découragement. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Est-ce que quelqu'un ici serait capable de lever la main et dire « moi, je n'ai jamais été découragé ». Il y a quelqu'un qui est capable de lever la main comme ça, non? Voilà, donc le découragement, c'est quelque chose, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Et quand on étudie la parole de Dieu, on se rend compte que bien nombre de personnes avant nous l'ont également vécu. Alors nous, en tant que chrétiens, comment vivre ce phénomène? Comment traverser ce phénomène? Qu'est-ce que le découragement? Et qu'est-ce qui se passe dans notre vie quand ça arrive? Alors, je pense que pour ça, il faut revenir. On va tout de suite, on va prendre pas mal de versets bibliques et on va essayer de voir tout ça au travers des écrits. De voir finalement qu'on a pu être découragé peut-être par nos propres objectifs qu'on n'a pas su atteindre. Peut-être que tu t'es donné des objectifs dans la vie et puis tu t'étais fixé un but et tu t'es rendu compte que tu n'arrives pas à les atteindre et tu arrives là, tu regardes derrière toi et tu te dis « mais là, mince, finalement, j'ai pas atteint mon but ». Alors dans mon travail, il y a quelque chose que je fais, mais que je n'aime pas faire, mais que je fais parce que c'est mon métier. Hein, vous avez tous des tâches comme ça que vous faites, mais finalement, ce n'est pas vraiment ce qui vous fait vibrer. C'est la restauration d'escaliers. Donc, pour ceux qui le savent, je suis menuisier. Et donc, lorsque vous commencez à restaurer un escalier, le client vous appelle et vous dit, voilà, j'ai un bel escalier en bois, mais j'aimerais le retrouver sous le bois d'origine. Et donc, moi, quand on m'appelle pour faire ça, je dis, ah non, j'ai pas envie de le faire, celui-là. Parce que vous savez ce que c'est un escalier, c'est compliqué, parfois c'est étriqué. Et là, vous vous rendez compte que, eh bien, le premier propriétaire, à l'époque, il aimait pas trop le bois, et vous allez voir les modes qui se sont suivies, il aimait pas trop le bois. Alors, il mettait à l'époque une peinture au plomb. Alors, c'est une sorte de peinture grasse, rouge ou alors violette, et il collait ça sur l'escalier pour ensuite mettre des moquettes. Puis le propriétaire d'après, lui, il s'est dit, il n'avait pas le courage de décaper ça, alors il s'est dit, moi, je vais enlever la moquette, et vous savez ce que je vais faire? Eh bien, il trouve la bonne idée de repeindre dessus. Et puis, on est déjà à la deuxième couche. Et puis, la troisième couche, ça va être quoi? Le troisième propriétaire, lui, il y a eu la mode des bétons cirés, vous voyez. Alors, on mettait des sortes de résine, et il a commencé à étaler de la résine, et il m'a mis ça. Et ensuite, vous retrouvez des cols, vous retrouvez toutes sortes de choses. Et parfois, vous avez 6-7 couches à enlever. Et moi, je me retrouve devant ça, et je dis, eh ben voilà, ça tombe sur moi. Alors, lui, il va payer cher, hein, je te le dis. Donc, vous voyez, vous êtes face à quelque chose où vous dites, bon, voilà, là, il va falloir avoir beaucoup de courage. Et vous commencez à décaper étape par étape. Et en fait, il y a une stratégie. Parce que si vous commencez, que vous vous réveillez, vous dites, bon, je suis pas très en forme ce matin, je vais commencer à 10h parce que j'ai pas envie de le faire. Vous deviez commencer à 7h30 et la première chose que vous dites, c'est je vais retarder l'échéance. C'est la première. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, c'est ce que tu vas avoir tendance à faire, c'est retarder l'échéance. Puis tu arrives en face et le client il te dit un petit café. Oui, un petit café. Et tu essayes encore une fois de retarder l'échéance. Et puis finalement, tu vas attaquer la première marche et tu vois que c'est compliqué. Tu dis peut-être que celle d'en dessous, elle est plus facile. Donc je laisse celle-là pour le moment, j'attaque celle d'en dessous. Et là tu dis, bah celle-là elle est encore difficile, je vais aller voir si en dessous ils m'ont laissé quelque chose d'un peu plus simple. Et si vous commencez à tirer comme ça dans tous les sens, eh bien vous allez finir la journée, vous n'aurez rien accompli et vous allez être totalement découragé. Alors peut-être que tu peux être découragé parfois dans ton travail, donc là je vous donne un exemple du mien. Peut-être tu peux être découragé aussi au niveau de physiquement. Tu sens que ton corps en ce moment, c'est difficile et puis tu fonctionnes, mais voilà, à un moment donné, ça devient pesant, ça devient lourd. Peut-être il y a la maladie, peut-être il y a toutes sortes de choses et ça devient compliqué. Peut-être que tu subis des pressions aussi au travail. Peut-être que tu subis des pressions familiales. Et tout ça peut amener à un découragement ou une forme de découragement. Et finalement, le découragement n'est autre que le manque, à un moment donné, de courage. Le découragement, c'est le fait que ta jauge de courage est descendue, et tu arrives à un moment donné, il n'y a plus rien. Et là, tu vas te retrouver dans tous tes états. Qui a déjà été dans tous ces états? Face à une situation, à ne pas savoir comment réagir, à plus être capable de faire quoi que ce soit. Vous avez tous connu ça. Ne me mens pas, s'il te plaît. Ne fais pas semblant. Donc, on est tous passés par là. Et j'aimerais qu'on comprenne quelque chose quand même On va lire tout d'abord, on va lire Genèse. Genèse, premier, le troisième chapitre de la Genèse. Et on va voir dans les premiers versets ce qui se passe. Alors là, on est juste après la chute. Vous connaissez l'histoire de la Genèse. Le Satan vient tenter Ève. Ève qui dit à Adam, allez, on y va, on fait ce qu'il faut. Et puis finalement, on tombe. Et là, Dieu va leur parler. Et là, vous allez voir, il va citer nombre de malédictions que Dieu va donner, non seulement à la femme, à l'homme et au serpent. Et là, on arrive à celle qui est donnée sur l'homme. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alors, vous voyez, quand on sort de là, il faut imaginer qu'on est, Adam et Ève ont tout pour bien vivre. Ils ont la belle vie. Tout est à leur disposition, vous le savez bien. Et puis là, eh bien, ils vont chuter. Ils chutent et Dieu va maudire maintenant. Tout va devenir plus compliqué pour eux. Tout va être plus compliqué. C'était cool. Qu'est-ce qu'il fallait comme courage à Adam et Ève à être seulement dans l'Éden avec Dieu ? Il ne fallait pas grand-chose. Tout coulait. C'était tranquille. La vie, elle était belle. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est maintenant, les gars, c'est fini, ça. C'est fini, cette position-là. À partir d'aujourd'hui, puisque vous avez désobéi, tout sera compliqué pour vous. Tu tireras de ton labeur à la sueur de ton front, maintenant, ne serait-ce que pour manger. C'est-à-dire que dans l'Éden, tu vivais, c'était la belle vie. Mais après l'Éden, eh bien maintenant, c'est plus la vie, c'est la survie. Ne serait-ce que pour vivre dans cette vie après l'Éden, il te faut du courage. Il va falloir du courage. Et l'Ancien Testament nous parle énormément de courage. Et on commence là. Pour vivre, maintenant, pour perdurer, pour exister, ça va te coûter. Il va falloir te donner. Ce ne sera pas simple. Peut-être qu'un jour, tu n'auras pas envie d'aller chercher ton bois pour te chauffer. Peut-être qu'un jour, tu n'auras pas envie d'aller chasser pour te nourrir. Peut-être, mais il va falloir que tu le fasses parce que si tu ne le fais pas, c'est la mort. Si tu n'as pas un minimum de courage là, c'est fini pour toi. Alors, le courage, ça a commencé tôt. Alors, c'est ce qu'on voit tout d'abord en Genèse. Le courage va commencer là. Il va falloir beaucoup de courage pour vivre. Le courage, c'est donc une vertu du cœur. C'est une vertu du cœur. C'est quelque chose qu'il y a dans l'homme, dans son âme. C'est une vertu du cœur qui va te donner, qui va te rendre capable de dominer les craintes, les peurs qui sont devant toi, tout simplement pour surmonter les dangers de la vie et tout ce qui peut advenir de toi et se présenter devant toi. Le courage, il va falloir même du courage pour faire face, certaines fois, face à la mort. Tu vas devoir regarder peut-être dans ta vie la mort droit dans les yeux et avoir énormément de courage pour passer au-dessus. Finalement, le courage, après l'Éden, ce n'est plus une option. Ce n'est plus quelque chose que tu prends si jamais il y a un problème. Après l'Éden, le courage va être nécessaire. Tu ne pourras plus t'en passer. Et finalement, nous, on est dans la même situation. On a besoin de beaucoup de courage. Alors l'Ancien Testament va nous parler de ça. Il nous parle beaucoup du courage qui a différentes manifestations. On va voir, vous allez lire le livre de Job et vous allez voir son courage dans l'endurance, dans la souffrance. Il était courageux pour affronter tout ce qu'il y avait à affronter. Vous connaissez l'histoire de Job ? On ne va pas en parler ce matin. Mais il a été très courageux face à la situation. Son courage a produit chez lui la persévérance. Ensuite, on va avoir la confiance en Dieu devant nombre de risques. Il fallait aller à la guerre, il fallait conquérir des territoires, et puis Dieu te parle, et puis tu te retrouves face à une armée, et là, qu'est-ce que tu fais ? J'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai besoin de ce courage pour affronter cette réalité. Ça va nous donner la hardiesse pour accomplir de grandes tâches. Pense aux rois qui ont construit toutes sortes de choses. Il leur fallait une hardiesse exceptionnelle pour accomplir tout ce qu'ils avaient à accomplir. Eh bien, tout ça, tout simplement, eh bien, on va voir que, eh bien, dans l'Ancien Testament, on nous parle de courage. Prends courage. Dieu va même dire, je t'ordonne que tu sois puissant. Et quand vous étudiez ça, dans la puissance ici, on parle de force. Je t'ordonne que tu sois fort. Il faut que tu sois fort, c'est essentiel pour que tu puisses vivre. Dans la notion de courage, quand vous étudiez l'étymologie dans l'hébreu, eh bien, c'est la notion de force, mais également de fermeté. Je suis fort et en même temps, je suis ferme. Je ne trébuche ni à droite ni à gauche, je garde ma position. Alors, c'est de ça dont on parle dans l'Ancien Testament. Le courage est une vertu qui t'appartient, elle fait partie de ton âme. Et il y a trois formes de courage, vous allez voir, on va voir les trois formes. La première forme, c'est celle dont je parle, c'est celle qui est en toi. C'est celle que tu vas devoir, la première forme de courage, c'est la première forme, c'est le courage que tu vas devoir développer. C'est le courage de l'homme charnel, de l'homme, de son âme, de ce qu'il y a en lui. C'est face à une situation, comment je réagis? Quelle est mon attitude? La dernière fois, j'ai fui. La dernière fois, j'ai reporté le problème. Mais maintenant, ça suffit, c'est plus possible. Maintenant, je vais me confronter à ça. Je suis plus fort qu'avant et je vais affronter la situation. C'est le courage de l'homme. On a tous une part de courage. Il y a des plus courageux que d'autres face à certaines situations. Quel est ton degré de courage en tant qu'homme? Parce que pour vivre sur cette terre, je peux vous dire que certaines personnes dans cette salle ont vécu des choses bien plus compliquées que d'autres. Et leur courage, aujourd'hui, a été amené à un niveau que toi, tu n'as pas encore exploré. Parce que les épreuves, les circonstances de la vie, ce qui les entoure, les a poussés tout simplement à survivre. Et là, on parle du courage de l'homme intérieur. C'est à toi de le développer. La parole de Dieu nous parle beaucoup de la paresse. Des choses qu'on on veut reporter, on ne veut pas faire. Elle nous met en garde contre ça. Quelque part, écoutez les gars, vous avez péché, vous êtes dans une situation où tout est plus compliqué. Moi, je ne veux pas vous abandonner, mais le courage vous appartient. À vous de le développer parce que pour vivre, il faut que tu sois fort. Pour vivre, il est nécessaire que tu aies de la force et que tu aies de la fermeté. Oh là là! Commence fort. Est-ce que pour tout le monde ici, la vie est facile? Tous les matins, tu es dans la joie? Non, il faut un minimum de courage. Parfois, c'est ta femme qui dit, allez, vas-y, réveille-toi. Oh, ma femme, elle me pousse comme ça, réveille-toi. Puis elle m'encourage. Je ne suis pas en train de prier Dieu, là. Je me mobilise moi-même. Qu'est-ce que je fais, là? Ok, je me concentre, je me mobilise. Il faut que je sois concentré sur ma tâche. À chaque jour suffit sa peine. Je vais affronter ma peine d'aujourd'hui. Et puis on grandit comme ça. Enfant, adolescent, les épreuves arrivent. Et on développe ce courage-là. Dans l'Ancien Testament, par rapport à son peuple, Dieu sait qu'ils ont besoin d'être courageux. Et vous allez voir, il va commencer à leur parler. Dieu, dans l'Ancien Testament, on constate qu'il va relever ceux qui sont parfois au bout du rouleau. Il va exhorter, il va être un soutien, il va fortifier les siens. Je dis bien, il va fortifier les siens. Il va dire, mon peuple, aujourd'hui, je vais vous fortifier parce que j'attends de vous que vous fassiez telle et telle chose. Et si vous acceptez de faire cette tâche-là, je vous donnerai la force nécessaire parce que je sais que ça dépasse vos propres forces. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Dieu va lever des rois, des juges, des prophètes, des hommes qui vont conduire le peuple. Et toujours, il va leur donner, ils vont arriver face à leurs limites humaines. Et au moment où on va voir qu'ils arrivent face à leurs limites humaines, Dieu va dire, ok, maintenant, je vais déverser sur toi quelque chose pour l'utilité de mon royaume et de la tâche que tu as à accomplir. On va lire ça dans Daniel chapitre 10. Vous irez lire si vous voulez approfondir plus profondément le sujet. On va sauter quelques versets. Vous allez voir, mais l'intérêt pour nous, c'est de voir comment Daniel a été face à des situations où c'était compliqué. Dieu va lui parler. La troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelée Betshatsar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. Ensuite, à cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été 3 semaines dans le deuil. C'est difficile. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche. Je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Tu peux suivre ? Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi ? Mon Seigneur, désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur. On l'a vu ça. Donc vous voyez, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux. Dieu, ici, va donner une tâche précise à Daniel et va lui demander d'annoncer un grand chamboulement. Il y aura vraiment des choses terribles qui vont se passer sur le peuple. Ici, ce n'est pas mon sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu lui parle. Envoie même un ange lui parler. Et lui, la révélation qu'il a reçue, il est déjà dans un état qui n'est pas évident, mais la révélation qu'il va recevoir est d'un poids exceptionnel. Il est incapable de porter cette révélation. Et là, l'ange va lui dire, lève-toi où tu es. Et là, il va se lever tout tremblant. Lève-toi où tu es. Parfois, Dieu va te dire des choses spirituellement et puis tu n'auras même pas la force de les recevoir, tu n'auras même pas la force de les annoncer. Pourquoi ? Parce que là, tu es au bout de ta force humaine. Tu es arrivé au bout de ton courage d'homme. Et là, il va te falloir une grande force, une grande fermeté pour pouvoir annoncer ce que Dieu te donne. C'est incroyable. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie où Dieu t'a parlé et t'a demandé de faire des choses personnellement et tu t'es retrouvé là et tu t'es dit, Seigneur, comment je vais faire ? Seigneur, est-ce que c'est vraiment possible ? Tu me demandes de m'engager dans tel travail, mais je m'en sens incapable, je n'ai pas les capacités. Mais tu sens que c'est Dieu qui t'appelle. Là, tu dis, Seigneur, je n'ai pas les capacités. Et vous voyez, ici, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le verset 12. Le verset 12. Daniel va reconnaître son état. Et ici, on a une clé dans comment se relever du découragement. La clé, ça va être la suivante. Daniel, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le courage contre la peur, voyez. N'aie pas peur. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendu. J'espère que tu comprends ce verset-là. Dès le moment où tu as eu à cœur de comprendre, où tu t'es pas dit de toute manière je vais faire à ma manière, de toute manière c'est comme ça, là j'abandonne parce que c'est pas possible, je passe à autre chose. Mais Daniel il a reçu quelque chose, il va s'humilier devant Dieu. Seigneur, je comprends pas parce que je suis pas capable et pourtant j'ai vraiment reçu ça, comment je vais faire ? Dès le moment où il s'est humilié, il a eu à cœur de comprendre. Il a mis de côté son entendement, il a mis de côté ses ressentiments, il a mis de côté son état. Et bien là, que fait Dieu ? Il va maintenant envoyer quelqu'un pour le fortifier, pour l'encourager, pour la tâche qu'il a à accomplir. C'est pas incroyable ça ? Il touche ses limites. Dieu dit, si, c'est bien toi que j'ai choisi. C'est bien toi qui vas aller. Mais moi, je vais te fortifier. Tu vas plus aller par tes propres forces. Mais tu vas aller avec les miennes. Est-ce que vous connaissez un verset qui dit « C'est quand je suis faible que je suis fort. » Mais il y a beaucoup de chrétiens, quand ils sont faibles, ils restent faibles parce qu'ils restent dans leurs pensées. Et la clé là, c'est « Seigneur, je suis faible, c'est dur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je subis, j'ai tout essayé, je me suis battu, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Je fléchis de genoux, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai besoin de comprendre. Je ne veux pas spiritualiser ce qui est de ma réalité et des choses charnelles. Mais j'ai besoin de comprendre, parce que vous savez, il faut pas tout spiritualiser. Ma voiture est crevée, c'est Satan qui m'attaque. Non. Il faut pas tout spiritualiser, hein, attention. Mais par contre, Seigneur, là, ça fait beaucoup. Je comprends pas où est-ce que je dois aller. Je me suis quand même engagé là, et je sais que c'est toi, mais il n'y a rien qui va. Il va s'humilier, il va déposer son cœur devant Dieu. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va lui répondre, il va le fortifier. L'humilité. Le courage naturel ne suffit plus. Il y a besoin du courage que Dieu peut lui donner. L'œuvre de Dieu souvent nous dépasse. Sandy, parfois, elle est là, elle est dépassée, elle est fatiguée. Ben, elle a besoin de Dieu. Parfois, je suis devant vous, je suis dépassé, mais j'ai besoin du courage de Dieu. Tout ce que tu vas faire dans l'œuvre de Dieu te dépasse. Des fois, tu ne comprends pas tout et Dieu te pousse et tu es complètement dépassé. Et là, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que là, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Alors, dans le Nouveau Testament maintenant, on a vu l'Ancien, ils avaient besoin d'être des hommes forts. Je peux vous dire que je ne suis pas un dixième des chefs de guerre de l'armée d'Israël en termes de courage. C'était vraiment des hommes courageux, hein. Vous voyez des histoires, c'était héroïque. Ils avaient un courage qui les poussait jusqu'à faire des choses exceptionnelles. C'était des héros. Un homme qui en bat 300 par son courage, par sa force. Ça, c'était l'armée de Dieu, tu vois. Et moi, quand j'ai une petite écharde au travail, c'est un peu mal aux doigts, vous voyez. C'est des hommes faits. Ils nous inspirent. Mais nous, on ne s'arrête pas là. Effectivement, il faut qu'on développe ce courage naturel, mais il faut aller plus loin. Dans le Nouveau Testament, le mot « courage » dans le Nouveau Testament est rare. Il n'y a pas beaucoup de fois où on nous parle de courage. On nous en parle, Jésus va en parler. Jésus va dire « prends courage ». Mais il n'y a pas beaucoup de on ne parle pas beaucoup de ça. Par contre, ce qu'on va trouver dans le Nouveau Testament, c'est énormément d'exhortations à demeurer ferme. Soyez ferme dans la foi. Soyez ferme. Je vous exhorte à rester ferme. Ça, vous allez le trouver. À ne pas craindre, à ne pas être inquiet, à ne pas vivre dans les peurs. Ça, là, le Nouveau Testament nous en parle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le courage, c'est surpasser les peurs, les craintes. Et là, on nous dit, ne sois pas inquiet. Tu ne peux pas rajouter quoi que ce soit à ta vie par tes inquiétudes. On va voir cet enseignement du Nouveau Testament. Et ça, c'est très fréquent. Soyez fort. On va voir Jésus. Alors avant de voir Jésus, j'aimerais vous parler de Paul. Vous aimez bien l'apôtre Paul? Oui, moi je l'aime bien. Quel homme incroyable. Et vous avez Paul qui va devoir, il va être jugé. Et donc, si vous connaissez un peu son voyage, donc il va passer devant plusieurs fois, et puis il va demander à être jugé à Rome. D'accord? Donc il va commencer son voyage, et vous avez même l'histoire où le bateau va couler. Vous vous souvenez de ça? Le bateau coule, il est près de Malte, et puis le bateau coule, et puis il se passe toutes sortes de choses. Et à un moment donné, quand le voyage va continuer, eh bien, Paul, on voit qu'il commence à être fatigué de tout ça. Mettez-vous à sa place, on voit Paul comme un guerrier, le gars il lâche rien, il est déterminé, il est conduit par l'esprit, ça c'est tout ce qu'on aime bien retenir de lui. Mais Paul est fatigué de son voyage. Et on va voir un verset qui passe toujours inaperçu, mais quand il est en captivité, donc il a la confiance du centenier qui a sa garde, donc il va lui permettre d'être en captivité, mais d'être à part, et il va juste poster un soldat auprès de lui pour surveiller quand même qu'il ne s'enfuit pas. Mais Paul veut aller se défendre, donc il n'a aucune raison d'aller s'enfuir. Et donc Paul, lui, ce qu'il va faire, c'est que dès qu'il arrive, pied sur terre, il va se dire, moi, je vais commencer à parler aux Juifs. Et il va essayer de prêcher aux Juifs, il va essayer de leur parler. Il veut rentrer tout de suite dans son ministère. Mais juste avant ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Paul, il descend du bateau et il y a des frères qui sont venus à sa rencontre. Et il y a écrit, Paul, en les rencontrant, prit courage. C'est incroyable. J'ai galéré pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout seul, là-bas. C'était compliqué, on échoue. Mais d'un coup, je sors du bateau, je vois Antonia et Jean, et ça m'encourage. Et rien que le fait de voir des frères et des sœurs, on voit qu'ici, on ne parle pas de courage spirituel. On ne parle pas de ce courage qui fait faire des miracles, qui fait lever les morts. On parle vraiment de l'homme. L'homme avait besoin d'être encouragé. Et juste à la vue des gens qui partageaient sa foi, de ses compagnons, il a été encouragé. C'est pas merveilleux? Donc ça, c'est un des exemples qu'on voit. Paul avait besoin d'être encouragé. Ensuite, Jésus va nous exhorter, Matthieu 9, versets 1 à 2. Jésus étant monté dans la barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, je vous ai toujours dit, Dieu répond à la foi, Jésus répond à la foi. Donc il voit leur foi. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, mettez-vous à sa place. Va voir un paralytique qui souffre et tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis « Prends courage, ça va aller. » Allez, salut, bonne journée. À un mourant, « Prends courage. » Ciao. Après, Dieu va faire quelque chose. Jésus va le guérir. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ici, à nouveau, il parle du courage de l'homme. « Prends courage. » Ensuite, Jésus va nous dire, Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le monde est difficile, le monde est dur, il y a des problèmes partout. Vous aurez des problèmes, mais prenez courage. » Ici, il ne vous parle pas à nouveau d'un courage spirituel qui vient de Dieu. Il vous parle du courage de l'homme. Sois courageux. Ça va être difficile. Si à chaque problème, tu tombes dans la lamentation, tu ne vas pas pouvoir aller bien loin. Il faut que tu sois fort, que tu fortifies ton âme. C'est important. Philippiens 4, versets 11 et 13. On va voir maintenant à nouveau Paul. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dans le Nouveau Testament, là, vous allez voir qu'il y a une différence. Au début, il dit « j'ai appris ». J'ai appris. Souvent, ça passe inaperçu. Et on prend que le « je puis tout par celui qui me fortifie ». Les chrétiens mélangent ça, tu vois. Tout va mal et Dieu va me fortifier, Dieu va tout faire. Non, j'ai appris à gérer ces situations-là. J'ai appris, même dans la misère, à rester ferme dans ma foi. J'ai appris, même quand c'est difficile, à ne pas perdre le cap. Ce n'est pas ça qui m'importe. Et au-delà de ça, ça c'est le courage de l'homme, au-delà de ça, je puis encore plus par celui qui me fortifie. Il est dans le plus, là. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le courage qui vient de Dieu, là. Là, il passe de l'homme, mon état charnel, je suis prêt à tout supporter. Mais là, je passe au-dessus. Parce que là, c'est avec Dieu. Mais il a appris à son corps, même à vivre dans des situations difficiles, pour pas abandonner sa mission. Parce que parfois, la moindre petite chose qui nous arrive dans notre vie, on perd l'orientation de là où Dieu veut nous conduire. Et on prie que pour nos problèmes, et en fait on est complètement perdu, je ne sais plus quoi faire, je me pose des questions, il n'y a plus rien qui va, parce qu'on est découragé. Et là en fait, si vous voulez, c'est comme si Dieu nous dit, pour affronter ce monde, il y a un minimum légal. Si tu veux aller plus loin que moi, il faut quand même que tu fasses ta part, je ne peux pas tout faire pour toi. Je t'ai créé corps, âme, esprit, ton âme t'appartient, ton corps t'appartient, il faut autant que tu prennes soin de ton âme que tu prennes soin de ton cœur. De ton corps. Tu te fais beau, c'est bien, mais ton corps, ton cœur, est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est ferme? Est-ce qu'il est déterminé? Est-ce que tu me suis? Ensuite, on va prendre encore un passage. Toujours Paul. Et vous allez voir, c'est intéressant. Donc le premier courage, premier type de courage, le courage qu'on doit entretenir. Qu'on doit entretenir. D'accord ? La discipline. Ce que tu dois faire pour tenir. On a vu le deuxième. Celui qui nous vient de Dieu. Quand on a atteint nos limites. Quand on a reconnu que là, c'est plus possible. Quand on s'est humilié devant Dieu. Qu'on a dit, Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et là, il nous fortifie. Moi, j'ai connu ça à plusieurs reprises dans ma vie. Dans mon corps, dans mes pensées, dans ce que je faisais au travail. Je suis arrivé à mes limites. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien toucher mes limites. Je ne vais pas me ménager. Parce que j'ai besoin de savoir jusqu'où je peux aller. Après, je décide, est-ce que je dois travailler plus pour augmenter le niveau? Ou est-ce que je recule et ça me suffit pour mon quotidien? D'accord? Dans tous les domaines, je suis un peu comme ça. Mais une fois que je connais ma limite, eh bien, si je sais que si je touche trop souvent à cette limite, je vais être fatigué, je vais être épuisé. Et là, je vais devoir prendre des décisions. Alex, si tu fais trop, ben, tu peux plus, ça va plus. Et là, vous voyez, parfois, on prie Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est les choix que j'ai pris qui m'ont amené dans cet état-là. Donc, il faut soit faire marche arrière, soit prendre d'autres décisions. Mais parfois, Dieu me met des choses à cœur, et je suis dans cet état-là, et je dis, Seigneur, mais comment je peux faire plus? Je vais mourir. Et j'ai vécu ça quand on a construit notre maison. J'étais au bout. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai plus de force. Regarde mon état. Fortifie-moi. Et là, j'ai senti la vigueur qui est venue dans tout mon être. J'ai dit, waouh. Je suis reparti comme si de rien. C'était par la grâce. On constate dans le Nouveau Testament qu'il y a une grâce qui nous est donnée de pouvoir demander à Dieu de nous fortifier. Ça t'est donné, en fait, c'est possible. T'es au bout, mais t'as la possibilité de crier à Dieu. Seigneur, vraiment, je te sers. Vraiment, je veux te suivre. J'ai pris des décisions, mais tu vois, je suis arrivé à ma limite. Je sens que c'est toi. J'ai besoin de toi. Tu as le droit de parler comme ça à Dieu. C'est possible. Alors, on va lire ici, en Éphésiens 3, verset 13, 21. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances. Peu importe ce que tu vis en ce moment, imagine l'apôtre Paul te dire, écoute-moi bien, ce que je te demande maintenant, c'est de ne pas perdre courage. Je sais que tu souffres, je sais que c'est dur, mais ne perds pas courage. Parfois, tu sais, c'est triste dans le milieu chrétien, mais tu vas dire à quelqu'un, ne perds pas courage, il va dire, mais il ne m'encourage pas, et pas avec moi, mauvais pasteur, mauvais évangéliste. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'en fait, on attend que les gens comblent un manque caché nous. En fait, la parole est claire. C'est dur, on le sait, c'est dur. Garde courage. Parce que je sais que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Celui qui dit ça, il est en train déjà de voir ce que Dieu peut faire pour toi. Il ne s'est pas arrêté à ta souffrance. Je sais que tu souffres, je sais que c'est dur. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Mais je sais que Dieu peut faire bien plus. Moi, je suis limité. Même pour t'aider, je suis limité. Même pour te conseiller, je suis limité. Mais Dieu, lui, ah, il est incroyable. Il y a toutes les solutions. Je ne sais pas ce qu'il peut faire maintenant dans ta vie, mais manifeste ta foi. Voyant la foi des gens qui amenaient le paralytique, Jésus a vu la foi. Ah, grâce à cette foi-là, je vais pouvoir faire des merveilles. Parce qu'il croit que je suis capable de faire bien plus que eux seront capables de faire. C'est incroyable. Et là, tout est résumé. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Et lui, il parle de ses souffrances. Les gens perdent courage parce que lui souffre. C'est incroyable. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Petite parenthèse. Peut-être que tu n'as jamais été encouragé dans ta famille. Peut-être qu'on t'a cassé. Peut-être qu'on t'a mis des bâtons dans les rues, dans les roues. Paul est en train de te dire, écoute, perds pas courage. Parce que tu sais de qui tu es de Dieu. Amen. Tu es de Dieu. Lui, il sait qui tu es. Il connaît ton identité. Il sait où il veut t'amener. Peut-être que tu n'as rien eu pour avoir confiance en toi. Dieu, il veut te donner la confiance dont tu as besoin. Crois en lui, plie le genou devant lui. Peut-être que tes parents, ils t'ont jamais dit que tu étais ceci ou cela. Et ça pèse sur toi. Tourne-toi vers Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire, Paul. Vous êtes la création de Dieu. Il vous connaît. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » On va le répéter celui-là. « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Tes émotions peuvent être fortifiées par la présence de l'Esprit de Christ en toi. Ta chair peut être fortifiée par la présence de l'Esprit de Christ en toi. Ta volonté peut être consolidée dans certains endroits où tu étais prêt à abandonner par la présence de Jésus dans ta vie. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Tu peux être rempli de toute la plénitude de Dieu. Moi, quand je regarde ça, que je regarde mon état, parfois, il faut savoir se regarder avec un... C'est comme si vous sortiez de votre corps et que vous vous regardiez. Bon, est-ce que c'est la plénitude de Dieu, là? Et tu fais un petit constat. Tu vas vite te rendre compte que parfois, ce n'est pas la plénitude de Dieu, que souvent, ce n'est pas la plénitude de Dieu. Pourtant, ce verset est en train de me dire, Paul qui a souffert pour moi, qui a prêché l'évangile. Grâce à ces hommes-là, je peux lire la même Bible que vous. Ils ont connu des choses extrêmes. Eh bien, je peux connaître la plénitude de Dieu. Alors, si lui, il l'a vécu, ça veut dire que là, j'ai confiance. Ce gars-là, je peux avoir confiance en lui parce qu'il a fait ses preuves. Ce n'est pas un discours. Ce n'est pas juste une philosophie. Soyez remplis de la toute-puissance de Dieu. Non, ce n'est pas ça. C'est dans le vécu, c'est être. Être puissamment rempli. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Lorsque j'ai l'humilité de dire Dieu, bon écoute, je manque de courage là. Ce matin, c'est compliqué pour moi d'aller au boulot, mais je vais me faire violence. Et je m'attends à toi. Et je crois que tu vas m'aider aujourd'hui. Et je mets ma foi en toi, parce que je sais que je ne suis pas là par hasard. Je suis ton enfant, Seigneur. Et tu commences à prier comme ça. Et je crois que tu vas te manifester aujourd'hui. Eh bien, tu peux être sûr que Dieu va se manifester dans ta journée. Tu peux être sûr qu'il va te fortifier, il va changer tes pensées, ta mentalité. Tu as l'amour de Christ qui va venir en toi. Occupe-toi de tes affaires, je vais m'occuper des tiennes. Et là, il va se passer des choses dans ta vie. Infiniment plus que tout ce que tu peux penser. Ça, c'est la deuxième forme de courage que tu peux, par la grâce de Jésus qui a vécu sur cette terre, qui a tout affronté. C'est grâce à lui. C'est parce qu'il a vécu la même vie que toi et moi, qui a souffert, qu'on peut dire, Seigneur, encourage-moi, j'ai besoin. J'ai besoin d'aller plus loin, je suis arrivé à la limite, je suis arrivé au bout. J'ai besoin de toi, Jésus. Et bien ça, c'est une grâce qu'il te donne de te fortifier puissamment, puissamment fortifié. Mesurez ces mots. Tu ressors puissamment fortifié. Pour ceux qui aiment Dragon Ball Z, c'est Super Saiyan, plus. T'as les cheveux jaunes, t'es en feu. Et c'est pas par ta volonté. C'est dans ta faiblesse, tu sens que là, ah Dieu, je suis porté. C'est incroyable. C'est incroyable. Ben ça, c'est la vie par la foi. Le troisième forme de courage qui existe, c'est le courage que tu peux donner. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, j'aime bien. Ça concerne l'Église. Là, on a parlé que de nous. Mais là, on va parler de l'Église. On va juste prendre deux versets, il y en a tellement, mais... Acte 15, verset 41. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Les apôtres, ils passaient par là, ils prêchaient l'évangile, ils disaient, Thierry, lève la tête, ça va aller, c'est difficile, mais tu vas pouvoir continuer d'avancer, Dieu est avec toi, il va faire de grandes choses dans ta vie. Ce n'était pas juste des déclarations. Et ils se fortifiaient les uns les autres comme ça. Jude et Silas, vers chapitre 15, verset 32, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, donc vous voyez, ils sont en train d'exercer, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Il leur disait, sois fortifié. Tu peux communiquer le courage, la force à tes frères, à tes sœurs en Christ, quand ils vont mal. Tu penses que c'est possible? Tu l'as déjà fait? Moi, récemment, j'ai été fortifié à deux reprises. J'ai dit, Seigneur, tu vois, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses. Ah là 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 là. Et je priais. Deux fois, on m'a appelé. On m'a dit, Alex, tu dois savoir ça, ça, ça. J'ai dit, merci Seigneur. Alléluia. J'ai été encouragé là. Tu as répondu à ma prière, il faut que je me bouge maintenant. Je ne peux pas rester dans mon état. D'accord? La première forme, tu as besoin de te bouger. Ça t'appartient. C'est à toi de te mobiliser. C'est à toi d'avoir envie d'avancer. La deuxième chose, c'est quand tu veux servir le Seigneur, tu veux avancer dans la vie réelle, dans ta réalité, c'est de dire, Seigneur, je compte sur toi, j'ai l'humilité de dire que je ne suis pas un vaillant héros par mes propres forces, je ne peux pas tout faire tout seul, mais je sais que toi, avec toi, tout est possible. Je sais qu'avec toi, je peux tout affronter, comme dira Paul. Je sais que c'est possible avec toi, j'ai confiance en toi. Et là, tu vas avoir la main de Dieu dans ta vie. Et la troisième forme, c'est cette forme que tu vas pouvoir donner à l'autre. C'est bien, je suis en forme, c'est bien, je suis motivé. Mais je vais pouvoir motiver aimé parce que pour lui, c'est difficile en ce moment. Je vais pouvoir motiver Adeline parce que c'est compliqué, elle ne bouge plus trop, elle s'ennuie et ça l'embête. Elle a besoin d'être fortifiée. Est-ce que tu me suis ce matin? Sois courageux. Humilie-toi devant Dieu. Et notre dernier verset, vous savez c'est lequel? C'est Jésus qui dit, j'ai vaincu le monde. Si ce Jésus qui a vaincu le monde habite en toi, il n'y a rien qui peut te terrasser. Le seul moyen d'être terrassé, c'est de laisser le découragement t'envahir. Pas relever la tête. Te complaire dans les problèmes. Te dire que de toute manière, c'est normal que ça t'arrive. Et bien là, tu donnes l'autorité à Satan. Et là, il va commencer à t'écraser. Tu peux passer par le découragement, mais tu dis, Seigneur, je sais que j'en suis là, aide-moi. Et là, il va t'encourager. Là, tu laisses l'opportunité à Dieu de manifester sa grâce dans ta vie, en fait. C'est la grâce de Dieu qui va couler dans ta vie. Et là, les choses vont se régler petit à petit.